pour le thème de mon message, c'est j'ai soif, donne-moi à boire. J'ai soif, donne-moi à boire. Pour être en introduction de ce message, on va prendre dans le livre des Juges deux versets. Dans le livre des Juges, vous avez peut-être lu ce livre, ces livres où chaque fois que le peuple de Dieu désobéit, se tourne vers les idoles, etc., etc., il est persécuté, il est attaqué. Alors il crie et Dieu donne un juge au peuple. Et dans ce chapitre, il est parlé d'un juge très spécial. C'est Samson. Très spécial. Pas très fidèle. Mais que Dieu, néanmoins, bénissait. C'est surprenant, quand même, de voir comment un homme de cet acabit, dont il ne fallait pas couper les cheveux pour qu'il ait toute sa puissance, on se dit, les cheveux, puissance, c'est autre ailleurs, c'est notre esprit, notre intelligence, notre capacité. Samson, lui, c'était ses cheveux. Et il combat les Philistins. Et dans ce verset, il a donc mené un combat. Il a tué, paraît-il, 1000 hommes. Mon Dieu, quand on y pense. Et quand on regarde l'Ancien Testament, c'est vrai que l'on voit énormément de choses qui pourraient nous choquer, nous froisser. Mais c'est l'histoire du peuple d'Israël et la relation que ce peuple avait son Dieu. Bonne ou mauvaise. Et c'est l'histoire aussi de l'humanité, comme on la voit aujourd'hui. Tout à l'heure, Robert rappelait ce qui s'était passé le 11 novembre 1918, où des gens se sont rencontrés dans un wagon de chemin de fer pour signer un armistice. Armistice, ça ne veut pas dire traité de paix. On sait, c'est une trêve. On arrête les combats. Ces combats se sont poursuivis jusqu'en 1922. Du côté de l'Europe à l'Est. Et il y a eu une trêve qui a été signée, un combat. Mais ici, il a combattu donc Samson et il dit à Dieu, verset 18, pardon, je fais du bruit, je touche toujours mon... Bon. Pressé par la soif, chapitre 15, pardon, oh, excusez-moi, chapitre 15 des Juges, verset 18, à 19. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est alléché. Il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima et il reprit vie. C'est là qu'on a appelé cette source En Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Lecce. Ça veut dire Akoré, ça veut dire source de celui qui invoque. Source de celui qui invoque. Notre source est en Dieu. Quand on invoque Dieu, il répond, il agit. Et il nous donne au-delà de ce qu'on peut imaginer dans notre vie de tous les jours. Boire est vital pour l'homme. Vous savez qu'on est à peu près fait de 90% d'eau. Et le reste, c'est de la poussière, hein, puisqu'on est sorti de la poussière. Et si on manque d'eau, il suffit de quelques jours pour mourir. On peut jeûner 40 jours et de là, et continuer à vivre, à condition de boire toujours de l'eau, de ne pas se priver de l'eau. On se déshydrate très rapidement. On n'est pas allé dans le désert, mais on a abordé le désert quand même, quand on avait été au Tchad, on était allé un peu dans le désert, on voyait quand même, vraiment, c'est terrible le désert. Et quand les gens sont perdus dans le désert, quand il n'a plus rien à sa disposition, et que la mort va venir, c'est terrible, terrible. Jésus pourtant a été pendant 40 jours dans le désert, sans boire. Et il était Dieu. Et c'est au bout de ces 40 jours que le diable est venu pour l'attaquer. Il n'avait rien bu, lui, mais il était l'eau vive lui-même. Il était l'eau vive et à travers ce qu'il était, il a pu résister à l'adversaire et lui montrer qu'il était lui le Tout-Puissant et que Satan n'avait aucun pouvoir sur sa vie. On ne peut pas se passer d'eau. On ne peut pas. Mais il est une autre soif. Pas simplement de l'eau. Elle est aussi présente dans nos vies, à chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est une soif qui est liée à notre être spirituel, à notre nature spirituelle. On doit avoir soif. Avez-vous soif? J'espère. Et que tout le monde a soif. Soif de ce que Dieu veut leur donner, de leur apporter, leur montrer dans le quotidien de la vie. Une soif qui n'est inépuisable. On a toujours besoin. Ce n'est pas simplement que pour un moment, pour quelques heures, quelques journées, quelques années, et après, on prend des vacances. Quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai eu une soif terrible. Il y a de cela de nombreuses années. Mais c'était une journée exceptionnelle, dans laquelle, finalement, j'ai vu la main de Dieu agir et sa puissance se manifester dans ma vie. J'avais soif. J'ai encore soif. Moi, j'espère avoir toujours la bonne soif. J'ai une soif dévorante de la parole de Dieu. Manger la parole de Dieu, la boire dans le continu, avec des découvertes, avec des choses que je n'avais jamais vues, que je voyais à travers la lecture. C'était quelque chose d'incompréhensible, mais qui était la vie véritable et profonde. Une grande richesse. Cette soif est déjà là, même en nous, quand on est enfant. Je me rappelle toujours quand j'avais à peu près 10 ans, je jouais avec un bout de... Vous savez, il y avait des, sur les manteaux, c'était pour là, 10 ans, c'était donc en 46 environ, vous voyez, ça fait quand même quelques années. Il y avait des, on avait des manteaux avec des gros boutons. Il y a les mots de change, mais elles reviennent toujours. À cette époque-là, il y avait des gros boutons. Et j'ai pris un bouton et je l'ai mis dans ma bouche. Bon, hop, d'un seul coup, le bouton passe. Je l'avale. Aïe, 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 quelle horreur! J'ai crié, mon Dieu, je ne veux pas mourir. Je suis là. Ce bouton, déjà, la pensée dans l'enfant, dans l'enfance, que Dieu, il y a un Dieu quelque part et qui peut prendre soin de nous et nous sauver de la mort. Oh, essayez d'avaler un bouton, vous allez voir. Mais c'était quelque chose quand même qui était bon et terrible. Ce bouton, j'ai dû le digérer. Et je suis vivant. Dieu m'a entendu. On crie. On peut crier tout petit à Dieu. Et parfois l'oublier. Et l'oublier parce que les années passent. On a d'autres conceptions de la vie. Et puis un jour, il se rappelle à nous. Alors, j'avais presque un peu plus de 33 ans quand, de nouveau, Dieu s'est révélé à moi. 10 ans, 33 ans. Dieu est patient. Il est patient. Est prêt à nous aimer, à nous manifester sa puissance et son amour. Sa puissance, oui, mais son amour. Un amour, ce n'est pas quelque chose qui écrase. Il y a des gens qui aiment tellement l'autre personne, le conjoint, qui ne peut pas supporter qu'il parle avec une autre personne. L'amour se transforme en jalousie. En jalousie. Pareil que Dieu a dit, attention, je suis à Dieu jaloux. Lorsqu'il a donné ses commandements. Ne vous tournez pas vers d'autres dieux, car je suis un dieu jaloux. Son amour aussi est un amour éternel, mais un amour qui est aussi, qui nous sert un petit peu quand même. Bon, pas trop fort. Hein. Mais il se manifeste à nous, il est là, et il fait preuve pour chacun de nous de cette compassion et cette miséricorde que doit manifester l'amour. Dans les enfants, souvent, à une époque de leur vie, c'est les pourquoi. Vous voyez, par exemple, des petits-enfants qui vous posent des questions. Et c'est des questions à répétition. Parce qu'il n'y a jamais de fin. Pourquoi? On lui donne une réponse. Alors pourquoi? Deuxième réponse, pourquoi? On est lassé, hein? Mais Dieu nous entend dire aussi les pourquoi. Pourquoi je suis fait comme ça? Pourquoi je suis petit alors que je voudrais être grand? Pourquoi j'ai les cheveux roux et j'aurais bien voulu les avoir noirs? N'est-ce pas, Thomas? Je plaisante. Mais l'autre jour, d'ailleurs, j'ai vu sur le journal qu'il y avait une réunion de tous les roues de France. Oh là! Pour se défendre, parfois. Moi, j'ai plus de cheveux. Beaucoup moins, du moins. Pourquoi? Parfois. Des questions stupides et qu'on pose comme des enfants. Quelle est ma destinée? Quel est mon avenir? Qu'est-ce que je peux faire dans le monde? À quoi je suis appelé? Combien d'interrogations dans nos vies? Pourquoi lui a ceci et moi j'ai pas ça? Pourquoi? Avons-nous soif de Dieu? Ou avons-nous soif simplement de notre vie propre, personnelle, en voulant qu'elle se développe à notre façon de voir les choses? Ésaïe a été inspiré par Dieu dans le chapitre 55, verset 1, on ne va pas le lire. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, même celui qui n'a pas d'argent peut l'avoir. Sans rien payer, gratuit. Gratuit. Quand je vois la publicité qu'on met cadeau gratuit, ça me dérange. Un cadeau, c'est gratuit. Ou alors c'est intéressé. On offre quelque chose à quelqu'un en espérant qu'il ira un retour. On invite quelqu'un au restaurant alors en espérant que l'autre nous invite un jour. Peut-être dans un meilleur restaurant que le nôtre. Mais on se voit dans l'esprit, dans quel esprit nous sommes parfois, dans les questionnements que nous posons et dans les recherches qui sont les nôtres. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Écoutez. L'Éternel nous invite chacun d'entre nous, à vouloir abreuver sa soif. Non pas aux choses matérielles, aux choses de ce monde, aux tentations qui sont là, aux choses qui nous sont offertes. Pensons qu'elles nous sont offertes. On voit parfois dans certaines assemblées, elle dit « Donnez, vous recevrez. Donnez-moi. » Au pasteur, au responsable. Et puis vous verrez. Mensonge. Dieu nous dit qu'on peut abreuver cette soif sans rien payer. Tout à l'heure, on parlait de la guerre 14-18, il y a eu aussi la 39-45. Et il y a eu la débâcle en 40, quand l'armée allemande a envahi la France. Des gens ont fui les régions où ils étaient, ils se sont retrouvés sur la route. Et beaucoup avaient soif. Et qu'est-ce qu'on voyait sur le bas côté de la route, les bords et dans les villages qu'on traversait? Des étals avec des verres d'eau, des bouteilles, et les gens approchaient, payer. On faisait payer aux réfugiés l'eau qu'ils pouvaient boire, plutôt que de leur donner la cupidité de l'homme, l'esprit tordu qui pouvait être là. On veut profiter du malheur des uns pour s'enrichir. Aïe de l'eau. Mais c'était, on a vu cela. Je l'ai entendu, moi. J'étais tout enfant pendant l'occupation. Comment on pouvait abuser des personnes de leur misère pour pouvoir le faire à les obliger à payer pour un verre d'eau. Dieu nous donne gratuitement. Le fait de savoir que cette eau est gratuite pour nous, ça devrait nous encourager, frères et sœurs. Et ceux qui sont aujourd'hui peut-être dans la souffrance, comme tout à l'heure Robert a parlé, dans le doute, dans la crainte, dans la peur, dans ne pas savoir dans quelle situation, quel va être leur avenir, qu'ils viennent à la source et qu'ils prennent l'eau que Dieu veut leur donner. La vie passée, elle est passée. Il y a devant nous un avenir que Dieu prépare. Pas celui que nous voulons préparer nous-mêmes. Vous savez, moi, quand j'étais étudiant, j'aspirais à une fonction, à une profession. J'avais visité une usine de papier, c'était dans le Finistère, l'usine Bolloré, M. Bolloré, qu'on en parle encore aujourd'hui, c'est le fils maintenant. C'était une usine où on fabriquait des papiers spéciaux, les papiers pour les condensateurs, etc. Et moi, dans ma pensée, j'aurais voulu être ingénieur chimiste pour travailler dans le papier. Et comme j'étais surveillant, pion, comme on dit à l'époque, dans un lycée professionnel, un jour, on m'a proposé de remplacer le prof de maths. Parce qu'il était absent, malade. Et puis j'ai dit quoi ? J'ai dit aussi pourquoi ? Parce que c'est toujours les pourquoi pas pour moi. Hein. Quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai dit pourquoi pas ? Là aussi, c'est pourquoi pas. Mais le pourquoi pas, c'était il fallait que j'y aille. Et j'ai aimé. Je vous dis, j'ai aimé. J'ai aimé. Et ma pensée a été changée, transformée. Mes projets que j'avais pour moi, mon avenir, a été transformé. C'était aussi des papiers, d'une certaine manière. Hein, il y avait des copies, tout le reste. Mais j'ai aimé. Et le Seigneur m'a conduit à vivre dans cette carrière. Et je suis resté toujours dans cette carrière. J'ai fait 37 ans de prof de maths. Et en plus, dans le même établissement, rendez-vous compte. C'est terrible, ça, un meuble. Mais j'étais là où Dieu me voulait. Dieu, là, me voulait dans cet endroit pour qu'un jour, je puisse aussi témoigner. Et quand j'ai pu témoigner, j'ai eu de grandes joies. Vous savez, dans l'enseignement public, parler de Dieu, c'est interdit. Hein. C'était à cette époque-là, à peu près, oui, interdit. Seulement, je me suis permis quand même de le faire, parce que Dieu me conduisait. Je me rappelle toujours que des élèves, un jour, parlaient, dans un temps, j'entendais parler de choses bizarres. Ils disaient que dans leur dortoir, il se passait des choses qui n'étaient pas normales, pas naturelles. Ils avaient commencé à jouer avec... Vous savez, avec les vers. L'occultisme était rentré dans l'internat. Et à travers ce qu'ils ont fait, il y a eu un esprit qui leur est apparu. Et que cet esprit a déchaîné dans le dortoir la violence. Et je les ai entendus parler de ça. Alors je les ai interrompus. C'était juste avant le cours. Mon cours de maths s'est transformé en évangélisation. Et j'ai pu leur parler en leur disant « Ce que vous vivez là, c'est contraire à ce que Dieu veut pour vous. Vous êtes en train de vous auto-détruire les uns et les autres. Écoutez ce que j'ai à vous dire. » Et ils m'ont écouté. Je pense que quelques-uns ont été touchés. Je ne sais pas, mais là, ils sont partis aussi les uns et les autres dans la vie courante. Peut-être qu'ils se sont convertis et se sont tournés vers Dieu à travers ce que j'ai dit. Parce que j'ai affirmé des choses et ils savaient que ce que j'affirmais, ce n'était pas du baratin, parce qu'ils me connaissaient. Et le proviseur, c'était une femme à cette époque-là, avait entendu parler peut-être de moi, que je donnais des conseils aux uns aux autres. Et quand il y avait un problème qui s'était posé dans l'établissement, elle m'avait demandé conseil. Moi, pauvre... enseignant, bon, j'avais un peu de bouteille, bien sûr, mais c'était quand même des conseils qui étaient d'ordre spirituel. Et quand les pastorales venaient, les pastorales qui avait lieu à Grenoble ou à Mulhouse, il fallait, étant les responsables de l'Assemblée, à cette époque ici, ah, ça vient du ciel. Je demandais une autorisation d'aller à l'opastoral. Un professeur qui demande à l'administration dans laquelle il est de pouvoir quitter l'établissement pour aller à une pastorale pendant plusieurs jours, une semaine presque. Si on tenait compte de tout l'ensemble, c'est une semaine. Et on me l'accordait à condition que je donne des devoirs à faire aux élèves. Ils n'étaient pas contents, les élèves. Hein. Ils avaient des devoirs, mais j'avais des copies à corriger. Mais j'avais l'autorisation, parce que je vivais, voulais vivre pleinement ma foi, naturellement. Pas avec un excès, pas avec en abusant des personnes, parfois pas dans le langage, mais en étant ce que Dieu voulait que je sois. La soif était là. La soif de servir Dieu, de l'honorer Dieu à tous égards, quelles qu'en soient les circonstances. Mais avec la, on pourrait dire, la douceur de l'amour que Dieu peut donner à chacun. Je vis des expériences qui étaient fortes. Et je m'en souviens toujours de cela. Et je me dis, Seigneur, tu as veillé sur moi. Tu as veillé sur moi et tu m'as donné une certaine grande liberté là où il y avait des contraintes qui étaient absolues. Dieu peut agir en chacun de nous si cette soif est là présente, la vraie soif, non pas le fanatisme religieux, mais la soif de vérité et de vie que Dieu nous donne à chacun pour aller plus loin dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Dans le livre de Jérémie, il est parlé de ceux qui ont construit des citernes. Ils ont abandonné la source d'eau vive pour se construire des citernes crevassées. Quand on rentre dans les doctrines, toutes sortes de formes de doctrines, ce n'est plus Dieu qui parle, c'est des hommes qui parlent et ne parlent pas de la vérité. Et comment peut-on avoir la soif ensuite de la vérité si elle n'est pas annoncée, si elle n'est pas proclamée? La soif n'est pas assouvie si on remplace Dieu, si on le remplace. Dieu a la première place. Il est dans notre vie à chacun. Il est là, rayonnant de puissance, mais aussi d'amour et de compassion. Il ne veut pas que nous puissions nous détourner de la vérité et annoncer une fausse vérité, notre vérité. L'Écriture, c'est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et nous le savons, mais il faut le vivre. Il faut le vivre. Soif de connaître son Créateur, soif de le connaître et de vivre pleinement de ce qu'il nous donne. Et c'est des richesses qu'on reçoit de lui, même dans notre pauvreté. Je rappelle qu'on est allé... Quand on allait en Centrafrique, on allait dans les villages, quand on voyait la foi et la joie de nos frères africains dans des conditions de vie difficiles, où il y avait toujours la joie. Bien sûr, tout n'est pas parfait, ça c'est certain. On a vu les mauvais côtés aussi, mais on a vu là qu'il y avait quelque chose qui était présent, des gens qui se convertissaient. On disait quelques mots, ils se donnaient au Seigneur. Ils étaient changés, transformés. C'était le temps du réveil. Nous voulons vivre le réveil. Je veux le réveil au milieu de nous, dans notre France. Qu'on ne soit pas, ou qu'on ne vienne pas simplement des religieux qui annoncent des choses, peut-être, mais avec une certaine timidité, avec une certaine peur, alors que Dieu nous donne la hardiesse dans notre vie de tous les jours. Connaître notre Dieu, vivre de lui, dépendre de lui. Connaître notre Sauveur, Jésus. Quand Jésus était au bord du puits, là où est venue la Samaritaine, comment un homme, un juif, pouvait-il venir à un puits samaritain pour prendre de l'eau? C'était une horreur. Regardez ce qui s'est passé au Pakistan, à Abiyabi. Hein, cette femme qui a osé prendre de l'eau à une source réservée aux musulmans. qu'on a considéré qu'elle était, qu'elle faisait un blasphème. Elle était condamnée à mort pour avoir bu une goutte d'eau à une source qui, paraît-il, était réservée uniquement aux musulmanes. Terrible, on y pense. La Samaritaine et Jésus, c'est la même chose. Il lui a demandé, Jésus, à la Samaritaine, de lui puiser de l'eau. C'était inconcevable. On va le lire dans l'évangile de Jean. Et quand je vois aussi à travers ce que dit Jésus, la sagesse de Jésus, son amour, sa compassion, sa miséricorde. Chapitre 4, à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme, la Samaritaine, lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle répond, « Seigneur, dit-il à la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif. Et que je ne suis plus, que je vienne plus puiser ici. » Elle venait seule, isolée, à une heure qui n'était pas la bonne. Elle se cachait des autres parce qu'elle n'était pas en règle. Parce qu'elle était une femme qui était rejetée par la communauté. Elle est venue seule. Elle se dit, je ne veux plus venir ici parce que je suis seule. Et Jésus l'a aimée, lui a manifesté un amour puissant, incompréhensible. Et sa vie a été changée. Il lui a révélé ce qu'elle était, mais sans la condamner. Combien de fois peut-on, nous, porter un jugement sur une personne et le condamner ? Condamné et nous. On disait hier, on parlait à Vincent qui parlait de la poutre et de la paille. Souvent, on voit la paille dans l'œil du voisin et on oublie qu'on en a une poutre dans le nôtre, hein, n'est-ce pas ? Que nous puissions aimer celui qui est pécheur afin qu'il change de vie. Change de vie. Donne-moi de cette eau afin que je vive. Afin que je n'ai plus soif. Jésus a dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. Ça m'emballe de voir ces choses. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Criait Jésus à la fête des tabernacles. Est-ce que vous entendez ce son, cette voix de Dieu qui vous dit, de Jésus qui vous dit, venez à moi, et vous n'aurez plus soif. La source, c'est Jésus. La source de celui qu'on invoque. Et nous savons que c'est vrai, c'est vrai et c'est vrai. Et que nous avons toujours besoin d'aller à cette source qu'il est Jésus. Oh, on parle de grand homme dans le monde. Il y en a un qui est plus grand que tous et qui a vécu dans une humilité extraordinaire. Jésus, simplement en sandales avec une robe. Et qui marchait sur les chemins de Galilée. Il n'avait pas de couronne, il n'avait pas d'événements brodés d'or. Il avait simplement ses sandales et il avait cette robe sur lui. Cette tunique. Il allait de lieu en lieu à pied, marchant. On voit aujourd'hui s'il y a des hommes qui ont des certains charismes avec des limousines, hein, dans lesquelles on peut mettre une douzaine de personnes, et qui ont des gardes du corps tout autour. Hein. Jésus n'avait pas de garde du corps. Jésus n'avait que des anges aussi pour le garder. Il était humble parmi les humbles. Qu'avons-nous à chercher d'autre? Jésus est la source. Et notre vie spirituelle dépend de notre relation avec lui. Dans le quotidien de notre vie. On n'a pas à creuser de citernes. On n'a pas à faire des réserves de spiritualité. La connaissance, finalement, la charité édifie. On peut savoir beaucoup de choses, énormément de choses. Je me rappelle de quelqu'un qui venait ici à l'église des années. Alors, il connaissait beaucoup de choses. Il était appris par cœur, mais beaucoup de passages de l'Écriture. Seulement, c'était un gens qui allait mendier. Et qui tendait les mains et qui insultait les chrétiens s'ils ne lui donnaient pas une pièce. Il connaissait l'Écriture. Mais il vivait comme un mendiant. Un mendiant. Il rejetait ce qui en faisait la force. Il disait qu'il connaissait Jésus. Ah oui, Jésus le connaissait, oui. Mais lui, il le connaissait de bien loin. Hein. Il n'était pas proche. Ce matin, frères et sœurs, je vous encourage à vivre pour lui. Et de lui. À vivre pleinement de lui, richement de lui. La foi, c'est pas des bricoles. La vie qu'on donne, que l'on mène, elle doit être en conformité avec ce que Jésus demande. Oui, la perfection n'est pas de ce monde, c'est vrai. Mais nous avons à grandir dans la connaissance même de ce que Jésus attend de nous, petits et grands. Il y a des dons pour les uns et les autres, particuliers. Il y a des choses que chacun de nous peut faire. Je crois que, vous savez, des fois il y a le désir d'avoir une place importante, comme les frères de les fils de Zébédée, qui demandaient qui sera le premier, alors qu'ils étaient avec Jésus. Ayons soif de lui, et pas soif de gloire, pas soif d'honneur, pas soif de richesse, mais soif de lui. Et cette soif dure et perdure jusqu'à notre départ. Vers lui. Je ne sais pas quand Dieu me rappellera. Il m'a donné souvent beaucoup de sourcils. Peut-être encore d'autres que j'aurai, je ne sais pas. Et pour l'instant, il m'a donné le pouvoir être toujours à son service malgré tout. Et soif de son amour, c'est important pour nous tous, soif de son amour. Soif de sa paix. Je ne donne la paix, je ne donne pas la paix que le monde donne, dit-il. Cette paix dans une relation les uns avec les autres, des relations avec le Père et le Fils. soif de lui plaire, de l'honorer, de le glorifier par nos actions, par nos façons de parler, nos façons d'agir. Reconnaître qu'on a pu se tromper, qu'on a fait une erreur et demander pardon. S'humilier devant lui. S'humilier, ce ne doit pas être une corvée. S'humilier, c'est reconnaître qu'on est faible, qu'on est fragile et qu'on a besoin d'être secouru. Quand le juste, tombe, le Seigneur le relève. Pensez cela. Il vous donne toujours une chance. Si on peut utiliser le mot chance. Dans l'avenir qui est le vôtre. Soif d'être rempli. Que le Saint-Esprit puisse agir en vous avec toute liberté. Qu'il n'y a pas des obstacles. Que vous ne mettiez pas vous-même des obstacles à son action. Et qu'on le laisse agir et œuvrer dans nos vies afin que nous puissions avoir la vie la meilleure et celle qui est la plus épanouie dans le sens spirituel du terme et non pas matériel du terme. Quand nous regardons dans le monde de nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont à cause du nom de Jésus, Jésus a dit « heureux ». Oui, heureux. On va pas aller chercher la persécution, mais elle va venir. N'oubliez pas. Ici, nous sommes apparemment libres. Il viendra un jour où peut-être on nous interdira de nous réunir. Parce qu'on dérange. Soyons renouvelés, frères et sœurs. En disant, j'ai soif, donne-moi à boire. J'ai soif. Que le Seigneur vous donne cette soif ce matin. Robert, est-ce que je peux faire un appel? Non, mais je me souviens. Un appel à ceux qui ont vraiment le désir d'être remplis afin que leur soif soit, comment pourrait-on dire, peut-être vous trouvez le mot, vous, hein. Étanché, voilà. Plus qu'étanché, à déborder. Et que nous ayons tous et toutes cette puissance dans le service de Dieu avec cette soif de ce que Dieu veut accorder à chacun de nous. On a ceux qui ont le désir vraiment de vivre des dimensions nouvelles pour leur vie, de se lever simplement, de se lever et de prendre position face à l'adversaire qui veut nous empêcher de décider de ce que nous devons faire dans notre vie, qui veut nous montrer, qui veut nous détruire, qui veut nous humilier. Et nous sommes plus grands, avec le plus grand, c'est Dieu. C'est lui qui donne à nos vies une dimension nouvelle. Le Seigneur veut vous donner les forces, frères et sœurs, pour aller plus loin, pour que nous ayons au milieu de nous ici un peuple appelé à servir et adorer et à glorifier son Dieu et à le manifester dans le monde d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour être simplement isolés, que ça ronronne entre nous, mais que nous puissions être ces témoins dans le monde d'aujourd'hui, où nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ, qu'il a mis en nous son eau vive. Seigneur, je te remets mes frères et sœurs. Je te remets leur vie. Je te remets leur désir profond de te plaire et t'honorer, de marcher de la façon que tu veux, toi, sous ta main puissante, mais aimante, et qu'il y ait dans les vies des transformations, des renouvellements, des forces nouvelles données à chacun, des révélations qui soient données pour aller plus loin, non pas pour punir les autres ou condamner les autres, mais pour simplement les aimer et les amener à une vie nouvelle et riche et profonde. Merci Seigneur de ce que tu accomplis ce matin au milieu de nous et de toutes ces forces que tu veux donner à chacun pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Amen.